Et il est 19h23.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Vous vous souvenez de ce slogan des années 70 ? En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Vieux slogan du choc pétrolier. Bien, désormais, en France, on n'a toujours pas de pétrole, ni de gaz d'ailleurs. Mais est-ce qu'on a des idées ? Nous avons réalisé, nous le savons désormais, que les sanctions à la Russie sont à double tranchant. Nous aussi, nous allons les subir. Ça a déjà commencé. On parle de notre facture de gaz, on parle de l'essence que vous mettez dans votre voiture. On parle aussi à terme des céréales, du maïs, du colza. Tout ce que la Russie nous envoie, ce que l'Ukraine produit aussi. La guerre se poursuit. On n'est qu'au début de nos répercussions sur les prix. Si la Russie décide, elle, de couper les robinets du gaz et du pétrole, de jouer donc avec nos opinions publiques parce que c'est le but, alors on n'est pas au bout de nos peines non plus. La solidarité, on en parlera d'ailleurs dans l'heure suivante. La solidarité, elle est bien là. La compassion, bien normale pour l'Ukraine. L'envie d'aider, elle est bien là aussi. Mais très concrètement, dans une France qui se relève à peine du Covid, qui a donc déjà vu flamber ses prix, dans une France qui a parfois du mal à boucler ses fins de mois, sommes-nous prêts à avoir froid l'hiver prochain pour l'Ukraine ? Sommes-nous prêts à remplir plus cher notre voiture pour l'Ukraine ? Est-ce qu'il y a surtout un plan B, quelque chose qui nous aiderait à passer ce cap solidaire mais coûteux ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer ensemble ? Y a-t-il des solutions pour nous, les particuliers, mais aussi pour les entreprises, les petites et moyennes notamment, qui sont elles aussi tributaires de gaz, de pétrole et autres ? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
La première, c'est vous, Hélène, soyez la bienvenue, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, allez-y, Hélène, on vous écoute.
Oui, bonsoir, oui. Oui, je voulais apporter un témoignage, en fait. Moi, je suis enseignante en art plastique, je suis contractuelle, donc je ne suis pas titulaire de mon poste et on m'envoie là où il y a besoin. Il se trouve que cette année, je travaille à 1h et 45 minutes de chez moi dans deux collèges différents pour un temps partiel. Du coup, voilà, nous, je voulais exprimer toute ma solidarité avec l'Ukraine. On est vraiment choqués et très embêtés par ce qui se passe. Bien sûr qu'on est prêt à accepter de serrer la ceinture. Moi, ce que je voulais quand même mettre en évidence, c'est la difficulté, moi, que je vais avoir à aller au travail, finalement, au bout d'un moment, avec ces essences qui coûtent très cher. Et puis, comment est-ce que, finalement... les gouvernements ou quelles sont les solutions qui vont pouvoir être apportées aux Français pour qu'on puisse supporter cette solidarité qui est bien évidente, il n'y a aucun souci là-dessus et on est embêté de se préoccuper de nos petits soucis alors qu'en Ukraine c'est beaucoup plus grave, mais quelque part on va être bloqué, enfin moi concrètement avec le petit salaire que j'ai et la quantité de routes que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de penser à un système différent, peut-être réformer le système en fond, mais en tout cas, peut-être voir comment est-ce qu'on peut aider les personnes au quotidien, quoi.
Merci beaucoup, Hélène, et on a bien senti, parce que c'était très bien formulé, votre question, ça n'a rien à voir avec un manque de solidarité, mais simplement avec des questions, effectivement, par rapport à votre facture. Pour répondre à toutes vos questions, discuter ensemble jusqu'à 20h, Alain Bazot est avec nous, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'UFC Que Choisir, Philippe Chalmin est avec nous également, bonsoir Monsieur Chalmin.
Bonsoir.
Vous êtes économiste et spécialiste du marché des matières premières. Et puis dans un instant, au téléphone, on rejoindra Alexandra Broussard, qui est directrice de l'entreprise Broussard Textile. Elle fabrique des chaussettes en Nouvelle-Aquitaine, c'est près de Limoges. 66 employés. Et vous nous direz, Madame Broussard, pourquoi et comment une petite entreprise comme la vôtre, qui fabrique des choses extrêmement concrètes et très quotidiennes, peut aussi être impactée. Je vais vous poser la question à tous les deux. D'abord, Alain Bazot, par exemple, président de l'UFC Que Choisir. Des solutions ? Est-ce qu'il y en a ? Est-ce que c'est, au fond, une fatalité et ce sera comme ça et il faudra faire le dos rond ? Ou non, il y a des solutions, on ne fera pas baisser les prix, mais il y a peut-être une manière de contourner un peu l'obstacle ?
Ben, disons que le premier impact, on le sait, c'est l'énergie. Mm-hmm. Bon, même si l'énergie, par effet domino et les problèmes de matière première, on sait que l'impact qui va être général sur les prix. Mais on va pas comparer dans le budget des ménages le prix, par exemple, d'une baguette de pain avec le prix de la facture pour se chauffer, la facture pour se déplacer, aller au travail ou avoir des activités. Donc il faut un petit peu serrer les
Il y a des choses qui sont incompressibles.
Il y a des choses qui sont incompressibles. Mmh. On appelle ça les dépenses contraintes. Mmh. Et en plus, il y a des dépenses contraintes sur des biens essentiels, comme l'électricité, qui est un bien essentiel. Bon, donc il est certain qu'il n'y aura pas de miracle. On va pas trouver de solution à court terme, ou peut-être même à moyen terme, pour faire baisser les prix. Donc la question, c'est de voir déjà comment se forment les prix. Et là, il y a la question de la part de la fiscalité dans les prix. Après, il y a la question, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc là, on a un déficit d'anticipation. À cet égard, que ce soit la politique de mobilité, de transport en commun versus voiture individuelle. Et puis, il y a la rénovation énergétique des bâtiments qui est très en retard en France.
Certes, oui, mais c'est pas ça qu'on va améliorer le temps de la crise russe et ukrainienne, non?
Ah non, exactement. Donc là, je parlais des mesures structurelles de moyen long terme. Il va quand même un jour falloir quand même s'y pencher. Parce qu'à chaque fois, on traite en urgence, en mettant des cataplasmes, en distribuant un peu des chèques, sans remettre en cause le... Bon, alors après, on propose, j'ai entendu, il faudrait que les gens se chauffent moins. Je veux bien, ça on l'entend. Je pense qu'on n'a pas besoin de le dire aux consommateurs, c'est pas des idiots. Je veux dire, surchauffer et puis ouvrir les fenêtres, je pense que tout le monde maintenant, on fait pas ça. Mais il y a des limites à ça. Ensuite, il y a des comportements, on va dire, un peu malin, par exemple renouer avec les circuits courts. Nous, on a fait des études, on a montré que par exemple les fruits et légumes ou l'alimentation en circuit court, il y a des gains de pouvoir d'achat parce que c'est moins cher. Donc on a sorti une carte interactive des circuits courts sur que choisir en ligne pour aller au plus près plutôt que passer par des intermédiaires. Donc il y a des modes de consommation qui peuvent évoluer pour essayer de que l'impact soit le plus réduit, mais on pourra pas aller très loin uniquement avec les consommateurs mais malin pour les consommateurs.
Philippe Chalmin, on parlait d'anticipation tout à l'heure, alors sans aller jusqu'à l'anticipation sur les voitures électriques, etc. Mais ce qui est une réalité dans cette crise, c'est qu'on ne l'a pas vu venir, et que donc, est-ce que ça veut dire que de toute façon, quel que soit le secteur d'ailleurs, qu'on parle de céréales, qu'on parle de gaz, qu'on parle de pétrole, de toute façon, nous n'étions pas prêts et nous ne sommes pas prêts à cette situation-là? Et est-ce que c'est réversible en quelque sorte, c'est-à-dire si on sait que ce conflit va durer, est-ce qu'il peut y avoir désormais une forme de préparation et donc d'anticipation, certes un peu tardive, qui nous aidera à passer ce cap-là?
Écoutez, je pense qu'il faut quand même que nous distinguions deux choses. La crise alimentaire, la crise agricole d'une part, la crise énergétique de l'autre. Sur la crise agricole, il ne faut pas exagérer. La part agricole de notre panier alimentaire est quand même relativement faible. L'augmentation, même avec la flambée relativement courte probablement des prix du blé, augmenter le prix de la baguette est à la limite de l'escroquerie intellectuelle. Sachant, ceci étant, que le coût de revient du pain a une contenance, a un contenu énergétique relativement important. Mais je dirais que sur les produits alimentaires, je pense qu'il faut arrêter un petit peu de faire peur, même si cela peut nous amener quand même à remettre en cause certaines orientations extrémistes venant de Bruxelles, la célèbre stratégie de la du champ à l'assiette, from farm to fork, qui amènerait à diminuer au contraire encore un peu plus la production agricole européenne. La notion de souveraineté alimentaire, elle a du sens. Et ça, c'est le premier point. Sur le point de l'énergie, nous sommes en face d'un choc énergétique majeur, et ce choc, il est d'autant plus important qu'il intervient au cœur d'une transition énergétique qui, pour des tas de raisons, avait augmenté notre dépendance au gaz, et en particulier au gaz importé de Russie. Nous ne voulions plus d'énergie nucléaire, nous crachions sur le gaz de schiste américain, bien entendu nous ne voulions plus de charbon, ça c'est légitime, mais le résultat, nous nous sommes mis pieds et poings liés, la tête sur le bio de la Russie. Alors maintenant on vient pleurer. C'est quand même un petit peu tard. Nos chers amis allemands qui ont refusé de mettre en place des terminaux de méthaniers, par exemple, pour regazéifier du gaz naturel liquéfié, parce qu'ils construisaient Nord Stream qui leur garantissait du gaz russe, qui ont poussé les énergies renouvelables en oubliant simplement que les dites énergies renouvelables sont intermittentes, qui ont fermé encore le 1er janvier dernier 3 centrales nucléaires, on peut dire que là, le réveil est douloureux. Alors, et ce réveil allemand, il est douloureux pour tout le monde. Ce soir, le prix de l'électricité a terminé la journée à 700 euros le mégawatt. Alors ça vous dit rien, 700 euros, mais quand je vous dis que le tarif de revente que auquel EDF est obligé de revendre son électricité aux distributeurs indépendants est de 46 euros. Vous voyez ce que ça va représenter comme débours pour EDF, tout comme pour débours pour le budget français sur le plafonnement du prix du gaz.
Philippe Chalmin, et rapidement, parce qu'il y a beaucoup de questions dans ce sens-là aussi, vraiment, hypothèse rapide et réponse rapide, est-ce qu'il y a, ou est-ce que ça c'est totalement hors de propos et impossible, une possibilité d'aller chercher plus de gaz en Algérie par exemple, de stocker plus, notamment en prévision de l'hiver prochain, d'agrandir nos capacités de stockage, est-ce qu'il y a une possibilité de faire ça, ou est-ce qu'il faut faire une croix? Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un fantasme. Ça n'existera pas.
On pourrait, parce que nous sommes finalement à la fin de l'hiver qui aura été relativement doux, on pourrait, en payant cher, parce que les tensions sur le marché sont très élevées, on pourrait compenser pour un temps le gaz russe par des importations de gaz naturel liquéfié. Essentiellement d'ailleurs, ça impliquerait que nos chers amis américains qui viennent de décréter un boycott du gaz et du pétrole russe qui ne leur coûte pas bien cher, ça voudrait dire que nos amis américains acceptent de nous réserver en priorité des cargaisons de GNL.
Mais, on sait transformer, parce que le problème du gaz naturel liquéfié, c'est les installations pour le transformer.
On a actuellement, je dirais que on n'en aurait pas suffisamment pour passer l'hiver prochain, on aurait de quoi tenir quand même quelques mois, probablement pas assez pour reconstituer nos stocks. Il faut pas se faire... Mais cela impliquerait peut-être, par exemple, nos amis néerlandais ont décidé pour des raisons environnementales d'arrêter la production de gaz à Groningue. Peuvent-ils revenir en arrière? Du côté de l'Algérie, il y a quand même des tuyaux qui alimentent des gazoducs, donc qui alimentent l'Espagne. Le problème est que ces gazoducs traversant le Maroc, les relations entre l'Algérie et le Maroc ne sont pas excellentes. Donc on voit tous les problèmes. Mais à la limite, on y arriverait. Ça nous coûtera beaucoup, beaucoup plus cher. Et objectivement, ce sera quand même très juste pour l'hiver prochain. Alors vous me direz, est-ce que une sanction symbolique prise maintenant et qui durerait 2 ou 3 mois pourrait avoir un impact sur la volonté de Vladimir Poutine? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Aujourd'hui, M. Biden vient de dire les États-Unis renoncent au gaz et au pétrole russe. C'est un effet d'annonce. Ça n'a, je dirais concrètement, aucune importance.
Ce à quoi il faut faire attention à la base également, et ça là aussi, on verra bien ce qui se passera, c'est si, je le disais tout à l'heure en introduction, si les Russes devancent notre indécision du moment et décident, eux, de fermer les robinets du gaz et fermer les robinets du pétrole. Ça remettrait les choses à plat et remettrait nos problèmes surtout très très haut, non?
Oui, c'est ça, c'est certain. Maintenant, moi, j'ai pas l'expertise pour dire ce qui se passerait si vraiment il y avait une attitude.
Ben, ce serait pire.
ça serait pire. Moi, je voudrais rebondir quand même sur le prix de l'électricité.
Ouais.
Parce que il y a quand même quelque chose qu'on dit rarement. Ça a été dit un petit peu au passage par Monsieur Chalmin, mais sous un angle un peu particulier. C'est que aujourd'hui, les Français ne bénéficient pas pleinement de la compétitivité du parc électronucléaire. Il faut savoir qu'il y a quand même de l'énergie électrique produite par EDF qui est vendue à l'étranger et qui est vendue très cher. Grand bien lui fasse à EDF, parce que du coup il surfe sur les cours mondiaux qui explosent et donc il les vend très cher.
Donc ça veut dire qu'on vend moins à l'étranger et on les garde pour nous.
Voilà, on les vend à l'étranger plutôt que de les vendre davantage aux Français directement ou plutôt via les alternatifs. Là le gouvernement il a une marge de manœuvre.
Il a une marge de manœuvre. Ce qui serait tirer une balle dans le pied de nos voisins, quand même, qui sont aussi, eux, dans une situation difficile, nos voisins européens.
D'accord, mais pour le moment, on réfléchit à savoir si les Français qui ont assumé le coût de construction du parc nucléaire, qui en assument le risque, si ils vont bénéficier de la compétitivité. Bien, aujourd'hui, on fait croire que le prix de l'énergie... Alors, heureusement, il est plafonné à 4 euros. Le gouvernement a plafonné. Sans nous dire à quel moment on va payer la facture. Parce qu'il ne faut pas oublier que les mesures gouvernementales, le fameux bouclier, s'est reculé...
Qui a été prolongé jusqu'en juin 2020.
S'est reculé pour mieux payer. La facture, les consommateurs l'auront après. Donc, aujourd'hui, bon, tant mieux. Mais on voit bien que ça ne règle pas les sujets d'avenir.
Je veux pas pas qu'on oublie qu'il y a des auditeurs au téléphone. Son, on parlait de baguettes, Philippe Chalmin, c'est vous qui en parliez tout à l'heure. Je voudrais qu'on écoute Godefroy, bonsoir.
Oui, bonsoir. Je me permettais de vous appeler parce que là, je suis en reconversion professionnelle et je suis sur le point de créer une boulangerie-pâtisserie. Et donc, qui dit obligatoirement, quand on est en création d'entreprise, on dit qu'on va faire des études de marché, qu'on va faire des business plans et tout ce qui s'en suit. Et on contacte les différents fournisseurs, notamment les minotiers et tous ces trucs-là, et tous ces fournisseurs-là. Et que ça soit même pour la simple fourniture de farine ou même la simple fourniture électrique, parce que j'entendais que vous étiez en train de parler de l'électricité, j'ai fait quand même un comparatif, que ça soit par Total Energy, par Eni, par Engie et tout ça, on arrivait à une moyenne pour l'électricité d'une facture pour rien que pour l'installation, hein, l'installation, la mise en service et tout ce qui s'ensuit. On est à peu près à 80 euros par mois de facture d'installation, hein, je dis bien d'installation. Hein. Et il estime que quand il va y avoir la consommation avec les fours, je serai aux alentours de 400 voire 500 euros par mois, voire même le double. Et quand à la farine, elle a été multipliée par 7 depuis le début de l'année. C'est-à-dire qu'avant, on arrive à des prix affolants. J'ai dit, c'est même pas la peine, voyant comment ça se passe.
Mais j'allais vous demander, est-ce que vous êtes en train de renoncer, Godefroy, à votre ouverture ou pas?
Je m'interroge réellement de savoir si ça vaut le coup, parce que si c'est pour arriver à faire une baguette à 2 euros pour avoir un petit peu de rentabilité et pouvoir payer les charges, je me dis, mais est-ce que je vais avoir la clientèle? Ouais.
C'est une vraie bonne question.
Une baguette à 2 euros, je discutais même avec des gens qui sont déjà établis. Ils disaient, nous, on va être obligés de monter à 10 ou 15% de prix de baguette. Les baguettes sont déjà à presque 1,10 ou 1,15 €. On va arriver à 2 euros la baguette, vous vous rendez compte?
Godefroy.
On était à 95, c'est de la folie.
Godefroy, merci beaucoup. Philippe Chalmin, est-ce qu'on peut le rassurer, Godefroy? Et vraiment, on est en train de parler de produits qui sont tellement basiques dans la vie de chacun et de tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre?
Je pense que le modèle boulangerie-pâtisserie est un modèle beaucoup plus large que la seule production de pain. Et je ne pense pas, effectivement, que ce soit sur le pain que le boulanger fasse ses marges. C'est beaucoup plus sur la pâtisserie et sur les plats préparés, enfin non pas les plats préparés mais les sandwichs, etc. Ça dépend de son implantation. Je n'ai pas l'impression, de tous les commerces alimentaires, ce n'est pas la boulangerie qui est à l'heure actuelle le plus en péril.
Donc la baguette à 2 euros, vous n'y croyez pas, vous, Philippe Chalmin, sérieusement?
Je pense que ce ne serait pas raisonnable. Je pense qu'en tout cas, je rappelle que dans une baguette aujourd'hui, le blé représente 7 à 8 centimes. Si j'extrapole la hausse des prix du blé pour la campagne à venir, et je rappelle que pour l'instant, la hausse des prix du blé, elle est cantonnée sur quelques semaines liées à la fermeture de la mer Noire. Les perspectives au niveau mondial sont relativement correctes. Et donc, grossièrement, la hausse du prix du blé se traduisait par 3 ou 4 centimes de plus sur votre baguette de 1 euro, ce serait le maximum. Sur la part de l'énergie, sur la part des charges sociales, etc., je ne le nie pas. Mais je crois qu'il ne faut pas utiliser le prétexte du blé pour justifier et pour remettre en cause le modèle d'un artisanat alimentaire qui me semble être beaucoup plus large. Alors je voudrais simplement revenir aussi, parce que ce qu'a dit M. Bazot est très important, sur le prix de l'électricité. Il se trouve qu'autrefois, c'était un petit peu d'ailleurs pareil pour le blé, autrefois on avait la politique agricole commune, les prix du blé ils étaient déterminés à Bruxelles. Autrefois, nous avions EDF, et EDF déterminait les prix de l'électricité en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, le coût de production, le renouvellement du parc nucléaire, etc., etc. Il se trouve qu'un grand vent a soufflé, la politique agricole commune a disparu et on a complètement libéralisé le marché de l'électricité. Aujourd'hui, et j'en conviens avec M. Bazot, c'est une aberration, le prix marginal du dernier kilowattheure, c'est le prix du kilowattheure de la dernière centrale appelée, donc d'une centrale au gaz. Et au fond, EDF se trouve à certains moments, puisque nous sommes sur des grilles qui sont totalement interpénétrées les unes les autres, nous nous trouvons à certains moments exportateurs, à d'autres moments importateurs. Ce qui est clair, c'est que, par exemple, lorsque EDF est obligé de vendre au tarif AREN à des distributeurs alternatifs à 46 euros le mégawatt, il est obligé de racheter de l'électricité pour ses propres clients sur le marché international. À la limite, je dirais que sont aussi un peu responsables de la chose, tous les petits consommateurs malins qui, à un moment donné, se sont dit « c'est moins cher ailleurs » et qui ont quitté EDF. Maintenant, ils s'en mordent les doigts. La vie n'est toujours, il y a toujours des prises de risque, qu'on le veuille ou non.
Alors, mordre les doigts encore, peut-être, je ne sais pas, en tout cas, peut-être prochainement. Je voudrais qu'on rejoigne Alexandra Brousseau, qui est avec nous. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Parce que les particuliers, évidemment, les entreprises et les petites, surtout les PME et les plus petites, sont évidemment impactées, elles aussi. Il y a environ 2000 PME qui sont impactées, hein, si je ne me trompe, c'est la CPME qui dit ça, oui. Alexandra Brousseau. Vous, vous fabriquez des chaussettes, vous êtes fabricant textile. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, après les hausses précédentes, parce qu'il y en a eu, on n'oublie pas qu'on sort de la période de Covid, qui n'a pas été une période facile.
En fait, c'est ça, nous, c'est presque une continuité, on va dire qu'on ne sort pas du cauchemar, en fait. Nous, les hausses ont commencé de manière conséquente déjà en mars 2021. On a eu une grosse accélération au mois de septembre 2021, ce qui fait que nous, sur l'année 2021, sur nos matières premières, déjà, on a eu 21% de hausse, hein. Début janvier 2022, c'était 28% supplémentaires qui sont arrivés. Donc, et là, voilà, on est en cours de discussion avec nos fournisseurs parce que les hausses se poursuivent. Il est vrai que sur la partie électricité, nous, depuis début janvier, ben là, on est à 23% d'augmentation sur l'électricité. On est, nous, on est connecté au gaz de ville. Donc là, on est en train de voir un petit peu ce qui nous attend pour les prochains mois. On nous annonce jusqu'à 60% d'augmentation sur le gaz. Donc oui, forcément, nous, c'est très, très compliqué. Parce que bah, depuis plusieurs mois maintenant, on a toutes ces hausses qui nous arrivent, qu'on essaie d'absorber une partie, parce qu'il est évident qu'on ne peut pas répercuter la totalité sur nos prix à nos clients.
Donc ça veut dire...
On ne pourrait absolument pas les assumer.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que la discussion, à la fois avec les clients, mais aussi avec les fournisseurs, elle a déjà commencé, Alexandra Brousseau?
Complètement. Là, on est... nous, bon, après, nous, on a une vision plutôt... Nos clients sont des partenaires. On a passé un petit peu le stade, même si on a une vieille maison hein, de 84 ans, on a passé le stade de la relation client-fournisseur. On a vraiment des partenaires avec nous, avec qui on expose la réalité des problèmes, de nos problématiques. Et l'idée, c'est que nous, nos clients puissent vendre les produits. Et s'ils vendent pas les produits, nous, on n'aura pas de quoi fabriquer derrière et faire tourner notre usine. Bon, aujourd'hui, on a 66 salariés, 66 familles qu'il faut nourrir. Donc on a besoin d'avoir les commandes de nos clients et pour ça on a besoin que nos clients vendent. Donc du coup c'est vraiment avec eux qu'on échange et bien entendu avec nos fournisseurs, hein, on est en totale transparence avec tout le monde. Et aujourd'hui donc on a fait le choix de garder une partie des hausses pour nous, d'en répercuter qu'une petite partie à nos clients, mais c'est en se disant que les premiers mois, on s'est dit que c'était voilà une période un petit peu difficile, qu'on allait faire le dos rond, qu'on allait absorber ça, et puis qu'on allait pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus normal. Bon, il s'avère que ça ne va pas être le cas.
Non.
Donc là, on repart dans la discussion avec nos clients. À dire, ben voilà, comment on fait ? Parce que nous, on ne va pas pouvoir absorber ces hausses de manière indéfinie, parce qu'on pioche dans les réserves.
Allez, Alexandra Brousseau, le fameux plan de résilience du gouvernement, est-ce que ça vous a parlé ? Est-ce que vous savez à quoi ça peut ressembler ? Est-ce que vous savez en quoi vous...
Le problème, c'est que ça ne veut rien dire, on est bien d'accord. Le plan de résilience, ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qui va sortir ? Bon, on a des petites idées, mais bon, on est sûr de rien, hein, parce que forcément, bah oui, on échange aussi avec la CPME, en effet, avec différentes institutions. Nous, ce qu'on attend, on sait très bien qu'on ne l'aura pas. Aujourd'hui, nous, ce qui va être vital, je pense, je dis bien vital, hein, sincèrement, pour les entreprises, c'est qu'il va falloir une régulation, comme l'État a pu le faire justement pour les particuliers avec l'électricité. Normalement, les particuliers.
Vous voulez qu'il y ait un bouclier tarifaire pour vous aussi, en fait?
Ouais, exactement, parce que ça va pas être possible en fait. Ça va pas être possible. On pourra pas assumer, parce qu'en fait il y a plusieurs choses. Voilà, comme on disait, il y a cette énergie donc qui va augmenter, qui a augmenté et qui va continuer d'augmenter de manière exponentielle. Il y a ces matières premières qui vont aussi poursuivre les augmentations, même si on espère une stagnation, on va dire, à partir de l'automne, mais on est sûr de rien. Et puis après, on a quand même une autre problématique qui est nos salariés, comme je disais, nos familles qui sont là. Aujourd'hui, ben nous, on est une industrie, donc on a beaucoup de bas salaires, nous, dans l'entreprise, et on est en milieu rural. Donc nous, les gens, ben, ils font des kilomètres pour venir travailler. Et aujourd'hui, faire le plein d'essence pour venir travailler, j'entendais Hélène tout à l'heure, enseignante, qui expliquait sa problématique. Nous, même s'ils n'ont pas 1h45, mais ils ont souvent une demi-heure ou 40 minutes de route pour venir travailler, certains. Donc ces personnes-là, nous on est très inquiets parce que on se dit à un moment donné ils n'auront plus les moyens de venir travailler en fait. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça? Donc nous déjà on est en train de gratter sur nos marges à cause de ces hausses et il faut en plus qu'on augmente nos salariés parce que clairement sinon ils ne pourront pas s'en sortir parce que voilà, il y a le gasoil, il y a l'alimentaire, ils vont avoir eux aussi les hausses de l'énergie. Donc c'est pas possible, c'est pas aujourd'hui avec un SMIC, il faut être clair, 1200 euros par mois, les gens ne pourront pas assumer tout ça. Donc nous, employeurs, il va falloir qu'on suive, mais dans quelle mesure et dans jusqu'à quel point est-ce que c'est notre rôle? Donc là, la question se pose. Donc nous, on est en train de réfléchir clairement à ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais là, on va avoir besoin, moi, j'espère, mais j'avoue que je suis assez pessimiste, mais j'espère tout de même, au fond de moi, que dans ce plan de résilience, il y aura quelque chose de prévu pour les entreprises à cet effet.
Et qui ressemblerait, je vous entends et je vous suis, Alexandra Boussou, qui ressemblerait à une forme de quoi qu'il en coûte, version conflit ukrainien, comme pendant la période de Covid, en fait. C'est ça que vous attendez?
En fait, le problème, c'est que l'État ne pourra pas distribuer des chèques, comme disait le monsieur tout à l'heure. C'est pas possible. À un moment donné, ça, il va falloir que ça s'arrête. On est tous conscients de ça. C'est juste pas possible. Peut-être qu'il va falloir prioriser, en fait. Moi, quand j'entends l'État qui va débloquer 2,3 milliards d'euros pour participer au développement de start-up industrielles en France, bon, ben là, j'ai envie de dire, ben, les 2,3 milliards, gardez-les pour les industries qui sont déjà en place et qui vont avoir besoin d'aide. Donc peut-être déjà en passant par l'allègement des charges, de manière à ce que nous, cet allègement, ça pourrait nous permettre de le répercuter sur le salaire de nos employés, qui pourrait justement, ça les aiderait sur le quotidien. Merci. Parce que nous, on attend que ça, avoir un allègement des charges pour pouvoir le redonner à nos salariés.
Je vous ai entendu, pardon, Alexandra Boussou. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Alain Bizot, le président de FC Que Choisir. L'effet en chaîne, il concerne directement les consommateurs. Si un certain nombre d'entreprises, c'est le cas de l'entreprise d'Alexandra Boussou, sont obligées à terme de répercuter sur leurs produits et donc sur l'achat. Donc ça veut dire moins de pouvoir d'achat, etc. La répercussion, pas seulement pour l'entreprise, mais pour le consommateur derrière, le grand risque, il est là quand même.
Bien sûr qu'on voit qu'il va y avoir un effet domino de répercussions en chaîne. On parle de l'énergie, mais il y a tout ce qui est produit avec la raréfaction de certaines matières premières, donc les prix augmentent, avec des charges plus importantes pour les producteurs, les fabricants, augmentation des prix des matières agricoles, bon, etc., etc. D'ailleurs, je voudrais revenir. Il y a un sujet sur la formation des prix qui devrait l'actualité, la conjoncture devrait amener sur la table un problème majeur qui est la place de la fiscalité dans les produits de consommation, la fameuse TVA. Depuis des années, depuis que ça existe, on sait que la TVA est parfaitement injuste. Elle est extrêmement injuste. Elle est proportionnelle au prix. Plus le prix hors taxe augmente, plus que récupère l'État est important. Et donc dans ce contexte d'inflation généralisée, il faut se poser la question de la légitimité des taux de TVA. Et ça, c'est un sujet de société. Qu'il faille des impôts pour financer l'État, la rénovation énergétique, tout ce qu'on voudra, les services publics, c'est tout à fait légitime. Mais est-ce légitime que sur des biens de première nécessité, comme le dit le Conseil d'État pour l'électricité, sur des dépenses contraintes, l'État prenne 20%. Je vais prendre deux exemples, tout simple, rapidement. L'alimentation, vous savez qu'il y a eu les accords de négociation entre les industriels et les distributeurs. Ils ont acté 3% d'augmentation des prix. Il faut savoir que le budget alimentation, Monsieur Chalmin disait que c'était pas grand-chose, c'est quand même, en gros, 178 milliards d'euros dépensés par les consommateurs. Si vous augmentez de 3% les prix, c'est automatiquement 5 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de l'État. Le prix du gazole, il était à 1,40 euros l'année dernière. Il passe à 2 euros. Il va sans doute le dépasser. Mécaniquement, l'État engrange 5 milliards d'euros en plus. Et après, on redistribue. Donc, on ponctionne énormément parce qu'on ne met pas sur la table la légitimité des taux de TVA. On ponctionne massivement partout. Donc, j'allais dire que l'État est le premier profiteur, on va dire, de l'augmentation générale des prix. Et sans parler, on l'a déjà dénoncé, le fait qu'il y ait de la TVA sur des taxes. Il y a aucune légitimité. Rien que ça, c'est pratiquement 5 milliards d'euros ponctionnés sur les consommateurs. Il faudrait qu'il y ait un débat en France sur la place de la TVA dans la formation des prix dans tous les secteurs.
Philippe Chalmin, et avant qu'on retourne au standard, il nous reste assez peu de temps. Jusqu'à quel point, et sans rentrer dans un détail trop technique, mais jusqu'à quel point cette crise nous dit qu'il y a un certain nombre de choses, je ne sais pas si c'est la TVA ou autre chose, mais jusqu'à quel point cette crise nous dit qu'il y a des choses qu'il faut remettre à plat, remettre sur la table et repenser différemment, précisément pour pouvoir absorber ce genre de crise de manière un peu plus facile.
Alors, il ne faut pas se faire d'illusions. Des chocs pareils, on en avait connu, on s'en souvient, dans les années 70, on met du temps à s'en remettre. Là où je suis assez d'accord avec M. Bazot, c'est peut-être une occasion de revoir, par exemple, notre système fiscal. C'est vrai que politiquement, les impôts indirects, c'est tellement plus facile que les impôts directs. Les gouvernements sont tellement heureux de dire « Regardez, j'enlève une partie de la population du rôle de l'impôt sur le revenu. » L'impôt sur le revenu progressif, c'est l'impôt le plus juste qui soit. Vous avez raison, la TVA, c'est parfaitement injuste. Simplement, c'est tellement simple. Et il faut bien se rendre compte que d'un autre côté, nos chers Français sont toujours en train de dire « Que fait l'État ? L'État doit nous aider. Regardez ce que vont représenter les dépenses que l'État va consacrer au plafonnement du prix du gaz et de l'électricité. On ne peut pas en même temps, M. Bazot a tout à fait raison, dans le cas de la fiscalité des carburants, on a de la TVA sur la TIPE. Donc on a une taxe sur un impôt. Absurde.
Et quand...
Simplement, la plaisanterie, si on la supprimait, ça permettrait de baisser le prix des carburants de 13 centimes. Vous me direz, les 13 centimes, ils viennent d'être balayés en quelques jours par la flambée des prix. Et ça nous coûterait quand même 6,5 milliards d'euros.
Et dans l'idée,
malheureusement, on n'en a pas les moyens.
Philippe Chalmin, pardonnez-moi, l'idée d'Alexandra Broussard, ce qu'elle disait, ce qu'elle souhaiterait, qu'il y ait un bouclier tarifaire aussi pour les entreprises, est-ce que ça vous paraît possible, envisageable, totalement inenvisageable ?
Envisageable, mais cher. C'est ça le drame. C'est ça le drame. De la même manière que moi, ça fait un certain temps, alors on me dit que c'est très complexe, que pour les particuliers, j'étais partisan de mettre en place des chèques carburant un petit peu identiques aux chèques restaurants dont on bénéficie dans les entreprises. Mais de toute manière, toutes ces mesures aujourd'hui prises de plein fouet, nous avons quand même des limites budgétaires et encore avons-nous les moyens de faire un peu de quoi qu'il en coûte.
Et j'ajoute que nous sommes en campagne électorale, ce qui change aussi peut-être un certain nombre de choses dans le débat. Je voudrais qu'on écoute Serge. Bonsoir Serge.
Oui, bonsoir. Merci pour vos émissions. Bon, voilà, moi j'appelais pour dire que bien sûr, que moi à titre individuel, je suis prêt à faire des sacrifices par rapport à ce qui se passe parce que c'est assez terrible. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a une forme d'indécence parce que ce qu'on constate, c'est que pendant les guerres, pendant les crises, c'est toujours les mêmes, c'est-à-dire les, moi je peux me le permettre, à la limite j'ai un niveau de revenu qui peut me permettre, mais c'est toujours les mêmes qui vont subir les crises, et c'est toujours les mêmes qui s'enrichissent pendant ce temps-là. Et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit par rapport justement à revoir à un moment la fiscalité, et je pense qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas. Par exemple, il y a quelque chose qui m'interpelle actuellement et sur lequel je suis assez étonné, c'est qu'on annonce que le prix du baril de pétrole est à 100, et va atteindre 140 $, ou il y est peut-être déjà, et que c'est le même niveau qu'il avait en 2008. Or, à ma connaissance, la TPIP n'a pas, la taxe n'a pas augmenté, hein, c'était pas la taxe flottante à l'époque. Et comment ça se fait qu'en 2008, avec un baril qui était aux alentours, au même prix, même un peu plus que maintenant, hein, alors que ça va peut-être pas durer, ça va peut-être le dépasser, on avait un prix de l'essence qui n'était pas 2 € le litre.
Merci,
donc,
Serge.
Et ce qu'on constate quand même, moi j'écoutais une émission dernièrement où un de vos intervenants qui disait que Total, rien que sur l'année dernière, avait reversé 36% de plus sur les revenus par action, alors qu'ils avaient augmenté royalement les salariés de 3%. Et il y a toujours les mêmes qu'on ne touche pas.
Serge, pardon, mais vraiment...
Dans le quoi qui en coûte,
merci.
Les multinationales...
Serge, on a déjà... Pardon, Serge, je suis désolé de vous interrompre, on a entendu ce que vous disiez. Juste en un mot, parce qu'on a déjà dépassé le temps pour répondre à notre ami Serge Alain Bazot. C'est toujours sur les mêmes que ça finira par tomber.
Oui, quand on dit qu'on n'a pas les moyens, on a les moyens. Il suffit d'aller les chercher. L'exemple de Serge, c'est effectivement, il y a des rentes dans un certain nombre de secteurs, des bénéfices. Bénéfices nets qui explosent et donc il n'est pas normal que ces bénéfices-là qui restent dans les caisses de certaines entreprises. Donc il faut effectivement aller chercher là où il est.
Merci beaucoup, merci de votre présence, merci à tous pour vos nombreuses questions. On continue ensemble, on reste ensemble, on va parler solidarité dans un tout petit instant aussi, si vous le souhaitez, avec vos questions, avec des artistes aussi qui viendront parler de ce concert qui commence dans une heure à la Maison de la Radio et de la Musique. À tout de suite.